Hébreux, chapitre 2, troisième partie. Un message du prophète William Branham. Le septième et le huitième et le neuvième, dixième chapitre. Depuis là, l'intérieur. Oh! Ayez vos crayons et vos papiers tout prêts, car je crois que le Seigneur va nous donner un grand moment. Maintenant, nous sommes, Paul exalte et place le Seigneur Jésus dans sa position. Maintenant, si nous pouvons finir ceci ce soir, dimanche matin, la plupart de ceci va se mélanger directement avec le message de dimanche matin, parce que c'est la séparation du sabbat. C'est une grande question parmi les sabbatistes aujourd'hui, et je vous inviterai tous à venir pour dimanche matin, car qu'est-ce qui est juste, le samedi ou le dimanche pour adorer? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Et alors, lequel de ce livre sépare la loi et la grâce? Et il place chaque chose à sa place. Les Hébreux ont été élevés par la loi, et Paul leur dit à quoi la grâce joue avec la loi. Maintenant, revenons un peu en arrière maintenant. Nous allons commencer en arrière. À propos, je me suis procuré des lunettes pour lire. Peut-être que je peux, si par hasard je fais une petite culbute ce soir, je les ai. Vous savez, je suis tout... Il me manque 2 ans pour avoir 50 ans, et je ne vois pas comme avant, près de moi. Quand on m'a vu, j'ai commencé d'apercevoir que les mots se troublaient, et j'ai pensé que j'allais devenir aveugle. Je suis allé pour un examen, et le docteur m'a dit, « Non, vous avez seulement passé 40 ans, fils. » Bien, il m'a dit que si je vis pour devenir assez vieux, cette vue peut revenir, et j'aurai à nouveau cette vue de près. Il me dit, « Maintenant vous pouvez lire vos Bibles, si vous les poussez loin de vous. » Je dis, « Oui. » Il dit, « Au bout d'un moment, vos bras ne seront plus assez longs. » Et ainsi, j'espère maintenant que dans cette étude que je... Cette petite Bible Collins est imprimée dans une bonne grandeur de caractère. Je peux la déchiffrer assez bien. Mais quand nous allons dans ces grands endroits profonds où nous devons prendre l'Ancien et le Nouveau Testament et mélanger les deux ensemble, j'ai ma petite Bible Scofield. Et je suis habitué à la Bible Scofield. C'est Marc. Je ne lis pas les notes de Scofield maintenant, parce que je ne suis pas d'accord sur pas mal des théories de Scofield. Mais j'aime la manière que c'est composé, parce que... C'est il y a longtemps que je l'ai et je la lis et autant je sais en quelque sorte comment trouver mes sujets. C'est tout neuf pour moi et enseigner, je ne suis pas un très bon enseignant. Mais supportez-moi pendant un petit moment et je vous dirai la vérité, du moins tout ce que j'en sais. Maintenant, ce livre est, Paul, vous vous rappelez, il était, comment avons-nous découvert que Paul était? Il était un grand enseignant, pour commencer, ou un grand érudit, et il était formé dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant qui nous avons trouvé, qui était son enseignant? Gamaliel, un des enseignants remarquables de ce jour-là. Et alors, Paul, nous trouvons qu'un jour, avant d'avoir été appelé Paul, quelqu'un peut-il me dire quel était son nom? L'auditoire répond, Saul, note de l'éditeur. Saul, et c'était une grande autorité à Jérusalem, une autorité religieuse, et il arrive comme un homme religieux bien formé. Il pouvait parler 4 ou 5 différentes langues, c'était un homme très intelligent. Bien, est-ce que son éducation et son intelligence l'ont aidé? Non. Il dit qu'il dut oublier tout ce qu'il savait pour apprendre Christ. Ainsi, nous trouvons que cela ne vient pas à un homme intelligent ou à un homme instruit. Il faut un homme qui soit d'accord de s'humilier devant Dieu, sans regarder à quoi que ce soit. Saviez-vous que Dwight Moody était si peu éduqué que, honnêtement, son écriture était si pauvre que, je ne sais pas, mais il devait réarranger ses messages tout le temps. C'était un si pauvre écrivain, très peu éduqué. Saviez-vous que Pierre et Jean de la Bible étaient si peu instruits qu'ils ne pouvaient même pas écrire leur propre nom, et ils ne l'auraient pas reconnu, là, marqué écrit devant eux. L'apôtre Pierre, qui avait les clés du royaume, n'aurait même pas pu connaître son nom signé devant lui. Pensez-y, la Bible dit qu'il était ignorant et pas instruit. Ainsi, cela me donne une chance. Amen. Oui, monsieur, cela descend directement de trouver que Dieu puisse faire cela à un homme. Maintenant, et nous réalisons qu'aussitôt que Paul eut une grande expérience, je vais vous demander, est-ce que c'est une expérience de venir à Christ? Est-ce que tout le monde a une expérience? Oui, monsieur, oui, c'est une naissance, c'est une expérience. Et ainsi, nous étions dans un collège luthérien il n'y a pas longtemps. J'eus le privilège cet après-midi d'y aller tard. J'aurais dû être là à midi pour dîner avec Tom Eyre. Combien ont entendu parler de lui? Le fameux soldat de prière irlandais. Et il a été avec ce frère F à son programme. Et il a paru ici dans beaucoup d'endroits en Amérique. Et j'ai dîné avec lui aujourd'hui. Et j'étais à peu près 3 heures en retard. Il était à peu près 3h30, 4h moins le quart quand nous avons mangé. Mais tout était bien. Et nous discutions sur ces choses. Comment Jésus-Christ est la tête de toutes choses. Maintenant, quand Paul réalisa cela, il eut cette expérience. Et alors, avant qu'il accepte cette expérience, il devait retourner à la Bible. Et nous réalisons qu'il s'en alla et il vint dans une autre nation. Et là, il resta 3 ans, cherchant les Écritures, pour voir si son expérience était juste. Maintenant, nous réalisons qu'il avait à faire face à une grande chose. Il devait revenir et dire à son Église et aux gens que la chose même qu'il avait persécutée, c'était juste. Est-ce que vous aviez à faire quelque chose comme cela? Certainement. Nous l'avons presque tous fait, revenir et dire, ces gens que nous appelions des « holy rollers », nous réalisons qu'ils ont raison, voyez, c'est cela. Nous avions simplement à nous retourner, et les choses qu'une fois nous haïssions, nous les aimons maintenant. C'est une conversion, une chose étrange. Ah, maintenant j'ai fait cette déclaration. Un holy water, cela n'existe pas. Mais ils appellent les gens comme cela, les gens de la sainteté. Mais il n'y a pas de holy waters, cela n'existe pas. Il n'y a aucun rapport d'aucune église enregistrée comme cela, pour autant que je puisse le voir, des quelques 960 différentes dénominations. Il n'y a aucune dénomination appelée Holy Water. C'est seulement un nom que le diable attache à l'église. Mais, dans ces jours-là, ils les appelèrent. Combien savent comment ils les appelèrent du temps de Paul? Hérétiques. Vous savez ce que hérétique signifie? Fou. Ce sont des gens qui sont fous. Ainsi, j'aime autant me faire appeler un holy roller qu'un hérétique, n'est-ce pas? Aussi, s'ils étaient appelés cela et se réjouissaient, et que dit Jésus de faire à propos de cela? Il dit, réjouissez-vous et soyez excessivement joyeux, car grande est votre récompense dans les cieux, car les prophètes ont été persécutés avant vous. C'est vrai. Il dit d'être excessivement joyeux. Quelque chose d'excessivement, cela signifie quelque chose d'élever très haut, vraiment heureux. Et les disciples, quand ils ont été trouvés dignes de supporter leur reproche à cause du nom de Jésus, l'opprobre du nom de Jésus, ils se réjouirent avec une grande joie qu'ils puissent porter l'opprobre de son nom. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils arrivent à ce point d'être appelés « holy waters », ils se reprennent. Peut-être que j'avais tort pour commencer. Mais eux, ils étaient heureux pour cela. Oh, pour porter le nom. Maintenant, au deuxième siècle, ils les appelaient des porte-croix. C'est quand les chrétiens portaient une croix sur leur dos pour montrer qu'ils étaient crucifiés avec Christ. Ils les appelaient porte-croix, crossback. Maintenant, je sais que les catholiques s'appellent comme cela eux-mêmes. Mais ce n'était pas l'Église catholique, c'était l'Église protestante, avant qu'elle ne s'appelle l'Église protestante. Elle ne protestait rien d'autre que contre le péché. La raison pour laquelle elle s'appelle Église protestante aujourd'hui, c'est parce qu'elle proteste le dogme catholique. Mais ce n'était toujours pas sectaire à ce moment-là, quand on les appelait porte-croix. Procurez-vous seulement une histoire de Joseph et des autres écrivains, les deux Babylone, Dislope et ainsi de suite, et vous trouverez que c'est juste, qu'il n'y avait à ce moment-là aucune église. La première église jamais organisée fut l'église catholique, environ 300 ans après le dernier apôtre, environ 300 ans après l'église catholique fut organisée, et la persécution commença, et ils forcèrent les gens dans l'église catholique, et ils eurent l'église et l'État unis. Ce fut après ce qui fut appelé la conversion de Constantin du paganisme au catholicisme. Mais si quelqu'un a jamais lu son histoire, il n'a pas été converti. Les choses qu'il a faites, oh, la seule chose religieuse qu'il ait jamais faite fut de mettre la croix sur l'église de Sainte-Sophie. C'est la seule chose qu'il ait jamais faite comme acte religieux. C'était un réprouvé, mais ils l'ont appelé sa conversion. Cela est comparable avec les soi-disant conversions d'aujourd'hui. Maintenant, mais nous avons trouvé que quand Paul se convertit, il eut cette vraie expérience. Il fut complètement retourné. Et vous savez, conversion veut dire retourner. Vous allez dans ce chemin et vous vous retournez et vous recommencez dans ce chemin. Oui, monsieur, c'est un retour, une volte-face. Et Paul, aussitôt qu'il fut converti, avant qu'il puisse jamais faire son expérience, maintenant, il eut une merveilleuse expérience. Maintenant, je crois que quand vous acceptez Christ, juste comme votre sauveur personnel, c'est une expérience. Je crois que la joie de savoir que vos péchés sont pardonnés fait frémir votre cœur de part en part. Mais alors, quand le Saint-Esprit béni descend, c'est une expérience, cette nouvelle naissance, que vous n'oublierez jamais. Vous devenez un enfant de Dieu. Et voici ce qu'il fait. Comment savez-vous cela, frère Branham? Maintenant, ce sont des leçons d'enseignement. Beaucoup de personnes, les méthodistes essayent de dire, ils crièrent quand ils le reçurent. Bien, cela va bien. Si vous l'avez et que vous avez crié, d'accord, parce que vous avez crié, cela n'est pas un signe que vous l'aviez, car beaucoup ont crié et ne l'avaient pas. Les pentecôtistes disent, oh, quand ils parlent en langue, ils l'ont, c'est très bien. Si vous parlez en langue et que vous l'ayez, très bien, mais vous pourriez parler en langue et quand même ne pas l'avoir. Ainsi, vous voyez, après tout, c'est l'expérience de passer de la mort à la vie. Quand toutes les vieilles choses meurent et toutes choses deviennent nouvelles, Christ devient réel, les vieilles choses tombent, les vieilles racines de la chair. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions l'habitude de prendre une houe à déraciner et nous l'accrochions là-dedans et nous creusions jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et il est dit, s'il y a des racines d'amertume qui surgissent en vous, qu'elles sortent de là. Et c'est juste. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il déracine toutes les racines. Il les sort, il les empile, il les brûle, il s'en débarrasse. Vous aurez une bonne moisson alors si nous faisons cela. Maintenant, Paul savait que quelque chose était arrivé. Ainsi, il redescendit en Arabie. Et là, il étudia pendant 3 ans sur tous les prophètes de l'Ancien Testament, comment ils apportèrent leurs prophéties. Et il finit par découvrir que c'était absolument la vérité. Maintenant, comparez cela avec aujourd'hui, voyez, à cette expérience que nous avons eue ici, dans cette petite église, de l'étoile du matin qui apparut là-bas, cette grande lumière qui descendit, qui a prédit et qui a montré les choses à venir. Vous savez, c'est merveilleux. Mais mes frères dans le ministère me dirent que c'était le diable, et je ne pouvais pas le comprendre. Aussi, je n'ai rien dit sur cela, jusqu'à ce qu'un soir, une nuit, il y eut une expérience qui arriva là-haut à Green Mill, Indiana. Quand l'ange du Seigneur descendit, marcha sur le plancher et se tint debout là, et il le prouva par les Écritures. Alors, cela alluma le feu. Alors, cela commença à aller. Pas plus tard que dimanche dernier, nous avons vu les marques infaillibles de Jésus-Christ, qui peut prendre un homme qui n'a pas marché, et même prendre, il avait perdu l'équilibre nerveux. Le maire et les meilleurs médecins avaient dit, c'est fini pour toujours. et il était assis, aveugle. Il se leva, sortit du bâtiment, poussant sa chaise roulante, descendant les marches. Il pouvait marcher et voir comme n'importe qui d'autre. Cela montre que c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Le voilà, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, ne sommes-nous pas un groupe heureux ce soir de savoir que Dieu a revendiqué cette grande expérience que nous avons, d'être comparé avec cette Bible et d'avoir les promesses? Ainsi, nous devrions être extrêmement joyeux. Et nous réalisons que dans le deuxième chapitre, nous trouvons, nous ne devrions pas laisser ces choses. Nous ne devrions pas négliger ces choses. Nous devrions nous accrocher à ces choses. Et comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Que ferons-nous dans la lumière de la parole de Dieu quand nous tiendrons à la barre du jugement? Vous ne pouvez pas dire, je ne savais rien d'autre. Oh, si vous le saviez! Bien, maintenant frère Branham aurait pu avoir tort. C'est vrai, mais Dieu n'a pas tort. Sa parole n'a pas tort. Et pensez seulement que la même chose, la Bible, qui une fois vivait dans les apôtres, vit de nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quand je pense que j'ai 48 ans, presque 50, et les jours de ma jeunesse sont passés, de ainsi de suite, de savoir que depuis que j'étais un petit enfant, j'avais cette promesse bénie, et je l'ai déclarée à mes frères et sœurs, et de voir littéralement ces milliers qui sont sortis des ténèbres, de savoir que nous allons à notre maison éternelle, vers les bénis. Et si ce tabernacle terrestre se dissout, avant que je ne finisse de prêcher, il y en a un qui attend là-bas pour lui. Alléluia! De savoir qu'il y a des douzaines de personnes assises ici, si elles devaient quitter cette vie juste maintenant, avant que l'on puisse mettre leur corps dans le service des pompes funèbres, ils seraient déjà dans ce corps glorieux, se réjouissant avec les saints de Dieu, déjà dans la présence de Dieu, pour vivre pour toujours avec le parfait. Absolument, attestant que c'est juste. Amen.
Amen.
Oh, cela ferait crier les presbytériens. Cela le fit dimanche, n'est-ce pas? Ces personnes étaient des presbytériens. Certainement, ils en étaient de savoir. Oh, cela n'est pas étonnant que les gens se sentent émus. Si vous êtes émus de frapper une balle ou d'en lancer une dans un panier, combien plus cela vous rendra ému de savoir que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous ne savez pas la façon que votre esprit vous conduit, loin de la malice et de la ruse et de l'inimitié et de toutes les choses du monde, et votre cœur reste ancré en Christ. Ce sont vos motifs, c'est tout ce dont à quoi vous pensez dans votre esprit, sur votre cœur, tout le jour et la nuit. Quand vous allez au lit le soir, et que vous mettez vos mains derrière vous comme cela, et que simplement vous vous couchez là, le louant jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous vous levez le matin, vous le louez toujours. Amen.
Amen.
Oh, j'ai essayé de le louer. Tous les matins, nous nous sommes levés à environ 4 heures, frère Wood et moi, pour aller chasser l'écureuil tôt le matin. Je crois que je le loue sous chaque arbre sous lequel j'arrive. Je ne peux pas voir un arbre sans le louer, en pensant qu'il fit pousser cet arbre. Vous voyez une vieille petite sauterelle s'envoler. Il connaît cette sauterelle. Oh, vous dites, un frère Bill, ça n'a pas de sens. Oh, non, ce n'est pas cela. Il sait où chaque écureuil est. Il sait où chaque oiseau s'envole. Pourquoi? Un jour, quand il avait besoin d'argent, il dit, Pierre, il y a un poisson qui a avalé une pièce de monnaie il y a un petit moment. Juste assez pour ce qu'il nous faut. Va, jette ton crochet, je l'enverrai là-bas. Prends cette pièce d'argent de sa bouche, car il ne peut pas l'utiliser lui-même, et va payer notre dîme et notre tribut. Amen. Et il y a quelques semaines, j'ai vu un petit poisson, mort, posé sur l'eau. Vous avez tous entendu cette histoire. Il y avait frère Wood et son frère qui en sont témoins. Et ce petit poisson, gisant là, mort, depuis une demi-heure, sur l'eau, ses entrailles sorties de sa bouche, et le glorieux Saint-Esprit descendit. Après qu'il m'ait dit le jour auparavant, tu verras la résurrection d'un petit animal. Et le matin suivant, Un peu après le lever du soleil, nous avons vu ce petit poisson, pas plus long que cela, quand l'Esprit du Seigneur descendit, et je dis, « Petit poisson, Jésus-Christ te rend entier !» Et ce petit poisson mort, qui avait flotté au-dessus de l'eau pour pratiquement une demi-heure, revint à la vie et s'éloigna en nageant aussi vite qu'il le pouvait. Oh, béni soit le nom du Seigneur, comme il est merveilleux. Ce n'est pas étonnant que Paul a pu dire qu'il était dans l'ordre de Melchisédek. Il était Melchisédek. Melchisédek n'avait pas de commencement de jour, il n'avait pas de fin d'année, il n'avait pas de commencement de vie ou de fin de vie, il n'avait ni père ni mère, ainsi il ne pouvait être personne d'autre. Qui que ce fût, il est vivant ce soir. Il est seulement un type de vie éternelle, et cela appartient à Dieu. Hier soir, quand nous étions en train de discuter, un frère ne pouvait pas comprendre la Trinité de Dieu, et comment nous en parlions. Comment Jésus était là debout, un homme d'environ 30 ans, et ils dirent, « Oh, nos pères ont mangé de la manne dans le désert !» Il dit, « Et ils sont tous morts !» Mais il dit, « Je suis ce pain de vie venant du Dieu du ciel. » Qu'un homme me mange, et alors il ne mourra point. Oh, ils dirent, nos pères ont bu du rocher dans le désert. Il dit, je suis ce rocher. Un homme de 30 ans. Il dit, Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Ils dirent, maintenant, tu veux nous dire que tu es aussi vieux qu'Abraham, et tu n'as pas 50 ans, et tu prétends dire que tu as vu Abraham qui est mort il y a 800 ans. Nous savons que tu as un démon maintenant. Tu es fou? C'est ce que démon veut dire, une personne folle. Ils dirent, tu as un démon et tu es fou. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà qui il était. Il n'était pas seulement un homme, pas plus qu'un prophète. Il était Dieu. Dieu demeurant sur la terre, dans un corps de chair appelé Jésus. Le Fils de Dieu incarné. C'est exactement ce qu'il était. Maintenant, nous le trouvons ici que... Dans la dernière partie maintenant, à la fin du deuxième chapitre auquel je voulais arriver, commençant avec le 16e verset ou le 15e verset. Et de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. C'est ce qu'il dit que Jésus a fait, qu'il est venu les délivrer de l'esclavage, ceux qui ont craint la mort toute leur vie. Maintenant, il n'y a plus besoin de craindre la mort. Maintenant, nous le faisons. Personne d'entre nous veut ce que nous appelons mourir. Mais savez-vous, si une personne est née de nouveau, elle ne peut plus mourir. Comment pourrait-elle avoir la vie éternelle et après mourir? Elle ne peut pas le faire. La seule chose est morte. Le mot mort signifie séparation. Maintenant, elle se séparera de la présence de nos yeux. Mais elle est toujours dans la présence de Dieu. Elle le sera toujours. Ainsi, la mort n'est pas une chose difficile. La mort est une chose glorieuse. La mort, c'est ce qui nous conduit dans la présence de Dieu. Mais maintenant, évidemment, nous, étant humains, nous marchons dans ces éléments sombres ici, et nous ne le comprenons pas comme nous devrions. Et évidemment, quand les douleurs angoissantes de la mort arrivent, cela fait peur et fait reculer les plus saints d'entre nous. Cela fit dire au Fils de Dieu, « Cette coupe peut-elle s'éloigner loin de moi ?» C'est une chose horrible. Ne le comprenez pas mal, parce que nous... C'est une punition du péché. La mort l'est, et cela doit être horrible. Mais, si nous pouvons seulement regarder, par-delà le rideau, là-bas, voilà où c'est passé. Béni soit le Seigneur, juste derrière le rideau. Voilà où l'homme désire regarder ce soir. La petite Anna Mae Snelling et les autres, ils avaient l'habitude de chanter un chant. « Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Oh, tout le monde veut voir cela. » Maintenant ici, nous en sommes au 16e verset. « Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. » Oh, nous voulons nous en tenir là de nouveau maintenant. Maintenant, nous descendons juste pour prendre, car la première partie de ce troisième chapitre, la dernière partie se mélange avec ce jour pour le sabbat, ce qui est pour dimanche prochain. Maintenant, regardez. Il ne prit pas la nature des anges. Maintenant, qui est ce « il » dont il parle? C'est Christ. Qui est Christ? Dieu, le Logos de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela encore une fois, afin que vous soyez sûrs. Dieu n'est pas trois dieux. La Trinité de Dieu est un. Père, Fils, Saint-Esprit ne signifie pas qu'il y ait trois dieux différents. Si cela était, nous serions des païens. C'est la raison pour laquelle les Juifs ne peuvent pas comprendre. Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible. Maintenant, cela est enseigné dans l'Église catholique. Voilà d'où vient le baptême au nom des trois. En Afrique, ils vous baptisent trois fois le visage en avant, une fois pour Dieu le Père, une fois pour Dieu le Fils, une fois pour Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est une erreur. Il n'y a aucun enseignement de cela dans la Bible, vous voyez? Et maintenant, c'est ce qu'ils enseignent. Cela descendit par Luther, de Luther en Wesley, cela traversa les âges, et cela continue encore. Mais cela n'a jamais été un enseignement biblique. Cela a toujours été une erreur, depuis que cela commença. Maintenant, ainsi, Dieu était au commencement, avant qu'il y ait jamais eu de la lumière, avant qu'il y ait jamais eu un atome, avant qu'il y ait jamais eu une étoile, avant qu'il n'y ait jamais eu quelque chose de visible, Dieu remplissait tout l'espace. Et en cela, il n'y avait rien d'autre que de la pureté, un pur amour, une pure sainteté, une pure justice. C'était l'Esprit. Il couvrit tout l'espace de l'éternité où nous ne pouvons pas le sonder. Cela va par-delà et cela va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Comme à travers ce verre, nous pourrions voir une centaine et quelque chose comme des millions d'années-lumière. Pensez-y, 100 millions d'années-lumière. Et la lumière circule environ 8000 miles à la seconde. Et 100 millions d'années-lumière. Pensez combien de millions de miles cela ferait. Vous ne pourriez même pas les énumérer. Vous pourriez simplement prendre une rangée de notes et les mettre autour de Jeffersonville, et même vous ne les auriez pas coupées en miles de miles. Pensez-y. Et derrière cela, il y a encore des étoiles et des planètes. Et Dieu, avant qu'aucune d'elles soit, il était. Voyez? Et maintenant, le Logos qui sortit de Dieu, qui était le Logos, tout cela commence de prendre la forme d'un corps. Et cette forme de corps fut appelée dans l'enseignement des docteurs Logos, le Logos qui sortit de Dieu. En d'autres mots, un meilleur mot pour ce que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il sera dans sa période glorieuse, mais c'est la forme d'un corps humain qui ne mange pas, ne boit, mais c'est un corps qui nous attend, aussitôt que nous aurons laissé celui-ci. Maintenant, là-dedans, nous entrons dans ce corps, et c'est cette sorte de corps-là que Dieu avait, car il dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Maintenant, quand l'homme vint dans ce corps, il avait le contrôle sur tous les animaux et sur tous les oiseaux et les bêtes des champs. Et alors, il n'y avait pas d'homme pour labourer le sol. Genèse 2. Il avait fait des mâles et des femelles. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme à un chimpanzé. Il lui donna un pied comme à un ours. Il le fit à l'image, et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale, et c'est fait avec le même matériau. Votre corps est fait juste du même matériau que celui d'un cheval ou d'un chien, ou n'importe quoi comme cela. C'est fait de calcium, de potage, de pétrole, de lumière cosmique. Vous n'êtes seulement pas toute chair comme cela est. Pas la même chair, c'est de la chair différente, mais cela est fait de la poussière de la terre d'où cela vient. Mais la différence entre un animal et un homme, c'est que Dieu a mis une âme dans un homme, et il n'en a pas mis une dans un animal, parce que l'âme qui était dans l'homme est cette théophanie. Oh, je n'arriverai jamais à cette leçon, mais je dois voir ceci, regardez. Ne vous rappelez-vous pas quand Pierre était en prison, et que l'ange du Seigneur vint et ouvrit les portes? Nous passions à travers le supermarché l'autre jour là-bas, et la porte s'ouvrit devant nous. Je dis, vous savez, la Bible a eu cela en premier, vous voyez? Maintenant, la porte basculante est par elle-même. Et quand Pierre sortit, passant devant les gardes, ils étaient aveugles pour lui. Il passa le garde dedans, le garde dehors, et il sortit dans la cour à travers la porte, dehors dans la rue. Et aucun d'eux ne savait qui il était. Ils ne prêtèrent aucune. Ils pensaient qu'il était un autre garde ou quelque chose comme cela. Il passa simplement, et la porte s'ouvrit d'elle-même comme il sortait. Elle se ferma derrière lui. Et quand il se trouva dehors, il pensait qu'il avait eu un rêve. Et il descendit dans la maison de Jean-Marc, où ils avaient une réunion de prière, et il frappa. Frère Branham frappe, note de l'éditeur. Espace blanc sur la bande, note de l'éditeur. Pour être au milieu d'eux, oh, il est glorieux, il est magnifique. Maintenant, il ne fut pas fait dans une forme d'ange, mais il prit la semence d'Abraham. Dieu devint la semence d'Abraham. Maintenant, si nous avions le temps de retourner et montrer comment il le fit dans l'Alliance, vous m'avez entendu prêcher sur cela bien des fois. Comment il prit ses animaux, et il les coupa en deux, il jeta la tourterelle, le pigeon à l'intérieur, puis il regarda, il aperçut une petite fumée d'horreur noire, la mort, ensuite une fournaise fumante, l'enfer. Mais par-delà, venait une petite lumière blanche, et cette petite lumière blanche venait entre chaque morceau de ce sacrifice coupé, montrant que ce qu'il voulait faire, et il fit un serment quand il fit cela, et il écrivit une alliance montrant ce qu'il ferait. Et lui, Jésus-Christ, vint sur la terre, Dieu Emmanuel, Dieu en chair, et au calvaire, il fut déchiré en deux, et son esprit revint sur l'Église, et son corps fut élevé, et il est assis sur le trône de Dieu, le trône de Dieu, celui qui est sur le trône est le juge, nous savons cela. Bien, où est le jugement? Le Père a donné le, il ne juge aucun homme, mais le Père a confié tout le jugement au Fils. Ainsi il est, et sa vie est le grand prêtre, assis là avec son propre corps comme un sacrifice pour plaider nos confessions. Amen! Frère, cela met quelque chose en vous. Notez, il prit la semence d'Abraham, il devint homme. Dieu fait chair parmi nous pour nous racheter. En d'autres mots, Dieu devint péché afin que nous, pécheurs, puissions devenir une partie de lui. Et quand nous prenons part à lui, nous prenons part à son... Nous étions des personnes pour cela, un espace de temps, 70, et Dieu descendit et devint l'un des nôtres, 70 pour son temps voulu, afin que nous puissions prendre part à sa vie éternelle. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes des fils et des filles de Dieu, et nous avons la vie éternelle, et ne mourrons jamais. Oh, quel sauveur béni! Oh, il est impossible de parler de cela, de l'écrire. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. C'est simplement au-delà de toute explication. Personne ne peut expliquer combien il est grand. Et comme tu es grand, comme tu es grand, c'est juste. Aussi, devait-il devenir en tout semblable à ses frères. Pensez à cela. Afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, écoutez cela. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour expier. Maintenant, Dieu connaissant la justice devait devenir l'injustice. Pour savoir ce que c'était d'être un pécheur. Pour repartir afin de réconcilier, par la réconciliation, et avoir de la miséricorde pour le peuple. Prochain verset, écoutez cela ici. Car du fait qu'il a souffert lui-même, Dieu ne pouvait pas souffrir en esprit. Il dut devenir chair pour sentir la douleur de la maladie, pour sentir la tentation de la luxure, pour sentir la tentation du vouloir, pour sentir la tentation de la faim, pour sentir la puissance de la mort. Afin qu'il puisse le prendre sur lui-même, de se tenir en présence du grand esprit, Jéhovah, l'esprit, pas l'homme, l'esprit, pour intercéder pour cette vie. Et Jésus prit cela afin d'intercéder pour nous, car il sait ce que nous ressentons. Quand vous êtes malade, il sait ce que vous éprouvez. Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous ressentez. Maintenant, avez-vous remarqué quand nous votons pour un président? Tous les fermiers voteront pour un président qui a été un fermier. car ils connaissent qu'il y a de dur dans la vie d'un fermier. Ils veulent un homme qui les comprenne. Et avant que Dieu puisse comprendre, lui étant cette grande sainteté, comment il puisse comprendre après qu'il ait condamné l'homme, par sa sainteté, il condamna l'homme. Et la seule façon qu'il ait jamais eue pour justifier l'homme, c'était de devenir un homme. Et Dieu couvrit la Vierge de son ombre, et cela créa un corps. Pas du sang juif, pas du sang des gentils, mais son propre sang. Le sang de Dieu créé. Pas de sexe du tout dans tout cela, pas de désir sexuel. Et cette cellule de sang, créée dans la matrice de cette femme, amena un fils. Et quand il fut baptisé par Jean-Baptiste, Jean dit, il témoigna qu'il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendant et demeurant sur lui. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire que toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Dieu et l'homme devinrent un. Le ciel et la terre s'embrassèrent. Et il était celui qui pouvait faire l'expiation pour nos péchés. C'est pour cette raison qu'en son nom il y a des guérisons, parce qu'il connaît vos souffrances. Avez-vous jamais entendu ce vieux cantique? Jésus connaît les peines que vous ressentez. Il peut guérir et il peut sauver. Portez vos soucis au Seigneur et laissez-les là. C'est juste, il connaît. Quand notre cœur est tourmenté par la douleur et que nous ne pouvons pas regagner notre santé, rappelez-vous simplement que Dieu dans les cieux répond aux prières. Jésus connaît les peines que vous ressentez. Il peut guérir et il peut sauver. Portez simplement vos soucis au Seigneur et laissez-les là. C'est tout ce qu'il demande. Laissez-les simplement là. Pourquoi ? Parce qu'il est notre grand prêtre, debout ici, qui connaît comment vous vous sentez, et il sait comment vous réconcilier de nouveau avec la grâce, et comment vous redonner votre santé. Il connaît tout cela. Il souffrit. Quand vous n'avez pas une place pour reposer votre tête, il eut la même chose. Quand vous n'avez pas d'habit pour changer, il eut la même chose. Quand on se moque de vous, qu'on vous persécute, il eut la même chose. Écoutez le dernier verset maintenant. Très bien. Il peut secourir ceux qui sont tentés, ou en d'autres mots, il est capable de mettre en sécurité, d'aider, de faire de ceux, de sympathiser avec eux, parce que Dieu lui-même devint homme pour le ressentir. Vous rappelez-vous l'autre soir, n'avons-nous pas enseigné sur cela, comment Dieu devait, la mort avait en elle un aiguillon, une panique en elle. Tous les jours, ils étaient en esclavage concernant cette mort. Et alors Jésus vint, afin qu'il puisse prendre cet aiguillon de la mort. Et quand il montait la montagne, rappelez-vous comment nous avons illustré cela. Ces petites taches rouges sur son manteau, après un moment, elles devinrent une grande tache de sang éclaboussée autour de lui. Son petit corps frêle, il ne pouvait pas aller plus loin, et il tomba. Simon de Cyrène, l'homme de couleur, lui aida à porter la croix jusqu'au sommet de la colline. Et quand ils le clouèrent à la croix, il cria pour de l'eau. N'importe quel homme qui saigne a besoin d'eau. Vous vous rappelez l'autre soir, quand j'ai prêché sur le chevreuil et le cerf ont soif de l'eau du ruisseau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si le cerf est blessé et qu'il est encore en vie, perdant du sang, il doit trouver de l'eau ou il mourra. Je fus blessé dans les champs quand j'avais 14 ans. J'étais étendu là, mes jambes partirent au-dessous de moi comme un hamburger d'un fusil, et je criais pour de l'eau. « Oh, donnez-moi un verre !» Je me plaignais, mes lèvres étaient engourdies. Mon copain courut dans une vieille mare. Il y avait toutes sortes de petits verres qui gigotaient, un marécage. Mais cela m'était égal quoi que ce soit. Il la remplit d'eau, jeta ma bouche ouverte, il tordit sa casquette comme cela dans ma bouche. « Oh, vous deviez avoir de l'eau !» Et il saignait. Il dit « Donnez-moi à boire !» Et ils lui donnèrent du vinaigre dans une éponge, et il le rejeta, le refusant. Il était l'agneau de Dieu, à notre place, pour apporter la réconciliation avec l'être humain. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu du ciel. Billy Sunday dit une fois, dans chaque buisson, étaient assis des anges disant, laissez simplement aller vos mains et pointez votre doigt, nous changerons la situation. Mais cette bande de religieux fanatiques effrontés, appelèrent quelques grands savants éduqués, ayant un doctorat en philosophie ou en théologie, Ils allèrent près de lui et dirent, « Maintenant, si tu es le Fils de Dieu, tu en as sauvé d'autres, et tu ne peux pas te sauver toi-même, descends de la croix, et nous croirons en toi. » Il ne savait pas qu'il lui faisait un compliment. Il aurait pu se sauver lui-même, mais s'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu en sauver d'autres. Ainsi, il se donna lui-même, béni soit son nom, il se donna lui-même, afin que je puisse être sauvé, et que vous puissiez être sauvés. Oh, quel amour sans égal! Il n'avait pas à être malade. Ce précieux corps né d'une vierge n'avait pas à être malade. Mais il devint péché, afin qu'il puisse savoir comment intercéder pour moi quand je suis malade. Il n'avait pas à s'épuiser, mais il s'épuisa. J'ai lu une petite histoire une fois là-dessus. Je ne sais pas si c'est authentique ou pas. Mais il était dit que quand il ressuscita ce garçon de Naïn là-bas, il s'assit sur un rocher et il gémit d'un mal de tête, car il devait supporter nos maladies. Il dut porter nos péchés, et là il mourut. Et au calvaire, quand cette vieille abeille et la mort une fois ancra son aiguillon, tout le monde sait que quand l'abeille ancre son aiguillon, elle ne peut plus piquer. Quand l'abeille s'envole ou n'importe quel insecte qui pique, quand il ancre son aiguillon, celui-ci sort de lui. C'est toujours une abeille, mais elle n'a plus son aiguillon. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de bourdonner et de faire beaucoup de bruit. C'est la seule chose que la mort peut faire aux croyants, c'est faire beaucoup de bruit. Mais, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il ancra cet aiguillon de la mort dans sa propre chair. Emmanuel le fit. Il ressuscita de nouveau le troisième jour. Il sortit l'aiguillon de là. Et il est immortel ce soir, et son esprit est dans ce bâtiment, et il prouve qu'il est vivant parmi nous. C'est notre Messie, c'est notre Sauveur béni.